Alors peut-être vous n'êtes pas très habitué du livre de la sagesse. C'est vrai que c'est la première lecture. C'est rare qu'un dimanche on puisse tomber sur ce passage-là et sur le livre lui-même. Un peu un rappel de ce qu'est le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse a été écrit, on le suppose, en moins 30 avec Jésus-Christ. C'est un écrit tardif, pratiquement qui touche, j'allais dire, au Nouveau Testament, mais c'est encore dans l'Ancien Testament, écrit par un juif d'Alexandrie. Alexandrie, vous le savez, était à l'époque une ville donc d'Égypte qui était un phare intellectuel, tant philosophique que spirituel, pour toute la région. On connaît la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, qui ensuite a été détruite, mais qui était de renommée régionale, en tout cas très importante. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde grec, il écrit en grec. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi ce livre de la sagesse n'est pas dans la Bible hébraïque. La Bible hébraïque de l'Ancien Testament, évidemment, c'est pas dedans parce que c'était reçu en grec. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle, pour votre information, ce n'est pas dans les Bibles protestantes. Parce que notre cher Luther, quand il a voulu définir le canon des Écritures, de l'Ancien Testament, il a dit surtout pas, on va pas prendre tout ce qui est catholique, c'est mauvais, donc du coup, on va prendre la tradition juive. Et donc, il a pris la Bible hébraïque et n'était pas à l'intérieur le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse, c'est-à-dire les livres de sagesse, vous l'entendrez parfois, le livre de la sagesse de Salomon. C'est aussi sous ce titre-là, parce que Salomon était celui le plus sage, voilà, celui qui n'a pas demandé la gloire et la puissance, mais vraiment d'être auprès du Seigneur et de discerner sa volonté. Mais les livres de sagesse, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans les traditions culturelles et dans ce Moyen-Orient de l'Antiquité, il y en avait beaucoup. Il y en a beaucoup aussi dans beaucoup de cultures. Chaque culture a un peu son livre de la sagesse, peut-être que plus ou moins exprimé, ou des contes, des légendes, voilà, des choses. Mais là, c'est tout à fait particulier, ce livre de la sagesse, parce que, contrairement aux livres de sagesse d'autres cultures, qui rappelle au fond, c'est ce que dit là, voilà, qui peut comprendre les volontés du Seigneur, voilà, les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, voilà, les livres de sagesse en général réaffirment la transcendance de Dieu ou de celui que la culture appelle Dieu et en même temps la fragilité de l'humain. Ça, c'est habituel dans les livres de sagesse. Mais ce qui est assez intéressant dans celui-là, et donc, parce que il est pétri évidemment de tradition juive, c'est un juif qui l'écrit, il dit « Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse envoyée d'en haut ton Esprit Saint ?» Au fond, c'est intéressant de dire, tiens, non seulement on se découvre bien misérable et on rappelle l'humilité, ce que font tous les livres de sagesse, que voilà, nous sommes des pauvres, etc., on ne connaît pas les pensées de la transcendance, etc. Mais non, mais en même temps, cette transcendance, elle vient à notre secours. Ça, c'est la grosse différence. Dans les autres traditions culturelles, il n'y a pas ce... Tu nous as envoyé ton Esprit Saint pour que nous connaissions tes volontés. Ça, jamais. Parce que ce n'est pas du tout dans les traditions culturelles, que ce soit de asiatiques évidemment, les pensées asiatiques, les philosophies qui sont plus des philosophies asiatiques que des religions, on pense à Confucius, etc. Mais il n'y a pas cette idée de la transcendance qui vient à notre secours et nous soutient. Donc c'est intéressant de dire cet aller-retour entre le fait de se sentir, de rentrer dans une humilité. Voilà, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres mortels, nos pensées sont instables, voilà. On arrive à peine à découvrir les choses visibles, encore plus, qui aurait connu ta volonté, etc. Donc, c'est intéressant de dire cette dimension d'humilité et de demande, au fond, pour pouvoir avoir une juste appréciation des choses et un juste discernement dans les choses. Parce qu'on va voir avec l'Évangile, c'est une question de discernement aussi. De dire, au fond, comment est-ce qu'on peut discerner la volonté du Seigneur, à la fois rentrer dans une humilité, de dire, voilà, c'est reste quand même mystérieux pour nous, mais nous ne sommes pas sans recours, nous ne sommes pas, et particulièrement nous, disciples de Jésus, nous ne sommes pas sans le recours du Saint-Esprit. Et c'est intéressant de voir que, justement, Jésus dans l'Évangile, quand il s'agit de discernement, est un peu contradictoire, parce qu'à la fois, il y a deux petites paraboles qui disent, faites bien attention quand vous allez bâtir une tour, quand vous allez en guerre contre un roi, etc. Calculez vos forces, sinon on va se moquer de vous. Donc un peu rationnel, on peut dire. Et en même temps, quelque chose de complètement... un peu hors sol, un peu étonnant, bah, celui qui aime son les loyautés familiales, vous voyez, son père, sa mère, et même sa propre vie, plus que moi n'est pas digne de moi, si vous ne renoncez pas à tous vos biens, donc le rapport aux biens, vous n'êtes pas digne de moi. Donc c'est intéressant de dire, tiens, comment est-ce qu'on a là aussi une clé de discernement dans ce que nous disons. Ça nous paraît contradictoire, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que dès qu'on se heurte, on dit, mais non, c'est un peu, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens, parce qu'en même temps, honore ton père et ta mère, Jésus est juif, donc évidemment, il pratique le commandement et il l'enseigne. Hein, donc on l'a vu à d'autres reprises avec le jeune homme riche, etc. Honore ton père et ta mère, etc. Il le rappelle. Donc, et il nous dit, celui qui. En fait, c'est intéressant de dire que, quelle que soit la dimension, les choix que vous faites, que vous posez, ça a un coût. Ça a un coût. Ça a le coût matériel pour une tour, ça a un coût en homme et en matériel pour une guerre, mais suivre le Seigneur, ça a un coût. Et qu'est-ce qu'il nous dit à travers ça? Il nous dit, au fond, les loyautés familiales que vous pouvez avoir, hein, ou le rapport à vos biens, en quoi ils peuvent être aussi, je veux dire, un obstacle pour le royaume? En quoi vous mettez au service ces relations qui comptent, hein, son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, etc., et sa propre vie, évidemment, c'est des relations qui comptent, ou aussi les biens matériels. Nous avons aussi, dans nos vies quotidiennes, besoin d'aspects économiques, matériels, etc. Comment est-ce que vous êtes attentif à voir que ça ne fait pas obstacle au royaume? Ça ne fait pas obstacle au royaume. Est-ce que vous êtes attentif à ce que ces biens-là, ces relations-là, au contraire, parce que vous voyez qu'elles sont porteuses du royaume, parce que, mais parfois, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Donc, il y a un coût affectif, un coût moral, hein, parce qu'il ne s'agit pas dans les loyautés familiales de coûts matériels, ou quoique, dans les successions, c'est très bien, c'est toujours très compliqué. Hein, mais voilà, de dire que, est-ce que vous êtes bien conscient de ces valeurs-là, de ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui peut éventuellement s'opposer au royaume? Et on a un exemple magnifique dans la deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est la lettre de saint Paul apôtre à Philémon, où là, on a un conflit de loyauté. On a clairement un conflit de loyauté. On a un conflit de loyauté parce que dans la lettre à Philémon, de quoi s'agit-il? Un esclave Onésime, Philémon, c'est un chrétien. C'est un chrétien, donc et saint Paul, c'est une lettre que lui-même a écrite, donc il y a quelques lettres de saint Paul qu'on est sûr, et ça en fait partie. Et Onésime, c'est un esclave. Et vous savez qu'au temps biblique, au temps de l'Antiquité, les esclaves, c'était des choses. C'était comme ce micro, comme ce cierge, comme cet tambour. Donc ça m'appartient. Et là, on est face à un esclave qui a fui. Et la condamnation était très sévère. La condamnation était très sévère. Il a fui et a trouvé refuge chez saint Paul. Et a été ensuite baptisé par saint Paul. Donc, ses loyautés sociales, ses lois, voilà, est-ce que ça va faire obstacle comment tu vas gérer ce conflit de loyauté? Qu'est-ce qui va... Le royaume fait que tu considères Onésime comme ton frère dans le Christ. Hein, il le dira avec des mots très touchants. Il se laisse vraiment aller et pencher son cœur. Mais la loi de la cité dit que c'est un esclave et donc c'est une chose. Vous voyez? Donc on est dans deux... Enfin, c'est typique du conflit de loyauté. Ça. C'est typique. À la fois, il y a une partie de moi qui me dit, voilà ce que je dois faire, je dois lui donner des coups de bâton, etc., lui demander, etc. Et ensuite, je dois, au contraire, comme chrétien, mais c'est un frère dans la foi, et c'est une personne à part entière. Et voilà. Donc, et c'est que bien tardivement que l'esclavage a terminé. Hein, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était profondément ancré. Et donc, c'est intéressant de voir comment saint Paul, il va ouvrir le cœur de Philémon pour redécouvrir Onésime comme son frère. Donc, c'est intéressant de voir comment il y a parfois des... Ça, typiquement, cette loyauté-là à la cité fait obstacle au royaume. Fait obstacle au royaume. Comment tu peux considérer un de tes frères en Christ comme une chose? Ça, c'est pas possible. Ça ne va pas être possible. C'est ce qu'il ne lui dit pas comme ça, notre cher saint Paul, et lui qui est parfois assez cash, etc., lui dit avec des mots très tendres, voilà, c'est, et il envoie ça, une lettre, et qui devient non plus comme un esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé, il est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Voilà, donc on voit, il emploie des mots très tendres, très affectueux, très, qui viennent toucher son cœur, il vient révéler son cœur. Attention de ne pas te laisser endurcir par les lois de la cité. Donc, je trouve ça intéressant de dire, tiens, comment justement, là, on a un exemple hein, où peut-être on ne met pas des loyautés au service du roi. On peut ne pas mettre. Ensuite, bon, l'histoire ne dit pas ce qu'il a fait avec le cher Onésime. Mais lui, saint Paul, ne pouvait pas non plus garder Onésime. Parce que sinon, il allait être traité de certaine manière d'encourager les esclaves à fuir. Donc, il y a une complicité. Il y a une complicité. Alors, il pouvait même traduire devant les tribunaux. Oui, donc, il ne pouvait pas garder Onésime. Mais s'il le renvoie et qu'on lui donne le bâton, etc., tu ne peux pas le reprendre comme si de rien ne s'était passé, comme s'il n'était pas ton frère dans le Seigneur. Donc, on bien ce conflit de loyauté, dans nos vies, ça peut être pareil. Un conflit de loyauté, c'est-à-dire, il y a deux personnes qui attendent de nous une réponse, des personnes qui nous ont fait du bien, dans notre cité, ben c'est grâce à ça aussi qu'on est construit, on est dans un état de droit, etc. Donc, voilà. Et puis, en même temps, la relation avec le Seigneur, évidemment, nous a construit, etc. Et des deux côtés, il y a des attentes. Mais des deux côtés, il y a des attentes qui s'opposent. Et vous savez que dans les loyautés, on ne peut pas donner de façon identique à deux personnes qui attendent de nous. Gérer ses loyautés, c'est gérer sa culpabilité. C'est gérer sa culpabilité. Que ce soit les loyautés familiales, vous ne pouvez pas donner le même... Ben voilà, si vous êtes en couple, si vous avez le même temps votre époux, votre conjoint, qu'à votre grand-mère, si elle est encore de ce monde, ou avec des êtres chers qui sont... Voilà, il y a un choix. Qui dit loyauté, dit choix. Et donc c'est intéressant de voir que le Seigneur, que ce soit pour les loyautés familiales, hein, il parle de préférer son père, sa mère, etc., ou les biens matériels, ce choix-là, il va être fait en fonction du royaume. Calcule le coût. Si tu t'éloignes du Seigneur parce que tu veux privilégier une loyauté ou parce que tu veux privilégier un lien matériel, ça a un coût. Attention qu'on ne ride pas de toi ensuite comme l'homme qui a voulu bâtir la tour et qui n'y est pas arrivé. Tu as voulu te mettre à la suite du Seigneur, mais ensuite, dès qu'il s'est agi de renoncer à quelque chose, lui qui ne renonce pas à choisir, c'est renoncer, vous le savez, ben voilà, et bien là tu as été, tu n'as pas été à la hauteur. Donc je trouve ça intéressant de dire comment à travers justement la sagesse ça nous donne un discernement, hein, c'est ce qu'on appelle la sagesse, ça veut dire, ça vient de sapere en latin, c'est-à-dire ça veut goûter, qu'est-ce qui a le goût de l'évangile dans mes manières d'agir, et qu'est-ce qui, au contraire, n'a pas la saveur de l'Évangile. Donc, je trouve que c'est un très beau passage, ces quelques lectures, ces trois lectures, justement, qui nous rappellent que, à la fois, tu fais retourner l'homme à la poussière, c'est le psaume, hein, donc, tu les as balayés, ce n'est qu'un songe, une herbe changeante, en même temps, une grande humilité, et c'est l'humilité qui va nous donner une clairvoyance. Au contraire, l'orgueil, et on a tous un angle mort dans notre manière de voir, des choses qu'on ne voit pas, on est une sorte d'aveuglement, hein, comme celui qui construit sa tour et qui n'a pas les moyens de la terminer. Il y a en nous ça c'est... Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est demander la grâce de l'humilité, c'est d'avoir cette, de se remettre, comme l'invite le livre de la sagesse, dans cette attitude de simplicité face au Seigneur, de dire, voilà, de demander à être éclairé par son Saint-Esprit. Et nous, plus que l'auteur de la sagesse, ben nous avons, comme disciples de Jésus, nous sommes les temples du Saint-Esprit, donc en nous de privilégier cette vie intérieure. Vous voyez, donc c'est intéressant de dire, tiens, comment l'humilité, c'est pas dire je suis nul, etc. Non, c'est d'être dans une attitude de demande, de supplication, de aide-moi à prendre la vraie mesure de mes jours, aide-moi à prendre des décisions qui soient conformes à l'Évangile, conformes au royaume. Quand on est dans ce conflit de loyauté, eh bien c'est la prière qui va être le signe de l'humilité, c'est ça, c'est la supplication. Alors c'est cette grâce qu'on va demander au Seigneur, les uns pour les autres, parce que la rentrée c'est aussi un moment où on prend des décisions, c'est un nouveau départ, des nouveaux engagements, ou des engagements anciens que l'on continue, etc. Bon, plusieurs choses qui sont à... Et peut-être certains d'entre vous, vous êtes nouveaux à Compiègne, mais déjà soyez les bienvenus. Mais c'est intéressant de dire, tiens, comment est-ce que nous, on prend nos décisions, comment est-ce qu'on discerne, et comment l'humilité va nous permettre d'apprendre, de donner la vraie mesure de nos décisions pour être les témoins d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.